C'est toujours la fête quand on peut prier pour un enfant, quand on peut vivre un culte de baptême, se réjouir ensemble. C'est des moments magnifiques. Et aujourd'hui, jour de baptême, il va être question d'être plongé, d'être immergé, imbibé, saturé. Voilà pourquoi j'ai choisi d'utiliser une éponge pour illustrer le message de ce matin. Sèche. Une éponge, elle ne sert pas à grand-chose. Je peux essayer de me laver, mais ce n'est pas très agréable. Si je devais effacer un tableau noir avec cette éponge, je pourrais mélanger la craie, mais ça ne donnerait pas grand-chose de plus. Mais c'est complètement différent si cette éponge est plongée dans son environnement naturel, si elle est imbibée, si elle est saturée d'eau, si elle est attachée à son environnement naturel. Seulement voilà, cette éponge, elle en a été séparée. Et maintenant, elle existe toujours, mais elle est sans vie. Elle est sans vie, elle est sèche. Eh bien, c'est un petit peu à l'image de notre vie, lorsque nous évoluons dans ce monde sans Dieu, séparés de notre Créateur. Elle est à l'image de notre état intérieur, de notre sécheresse spirituelle. Lorsque nous essayons de chercher par nous-mêmes des solutions à nos frustrations, nos vexations, nos douleurs, nos fardeaux, lorsque nous essayons de trouver des solutions purement terrestres, humaines, voire ésotériques, lorsqu'on met tout notre espoir dans la technologie, si nous sommes séparés de notre environnement naturel de Dieu, de la présence de Dieu, nous sommes secs. Alors ce matin, nous allons parler d'attachement et d'appartenance. L'attachement à notre environnement naturel. Je vais préparer quand même un peu tout ça. Nous allons parler de notre attachement naturel, de notre appartenance à notre Dieu. Et pour ça, je vous propose de lire un texte extrêmement connu qu'on a lu ici il y a quelques semaines lors du dimanche de l'Ascension, Matthieu 28, les derniers versets, 18 à 20. Vous savez, c'est quand Jésus a rassemblé tous ses disciples sur la montagne qu'il leur donne ses dernières prescriptions juste avant de monter au ciel. Matthieu 28, à partir du verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples. On ne peut être plus clair. Jésus n'ordonne pas de faire de tout Israël des disciples, mais de toutes les nations. Jusque-là, les Juifs, ils pensaient que le salut, il était réservé seulement pour Israël. Mais quand Jésus précise toutes les nations, c'est comme s'il revient de 2000 ans en arrière, à Genèse 12, la promesse qu'il a faite à Abraham. Et il dit, Dieu dit à Abraham, je bénirai tous ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça dépasse largement le contexte d'Israël. Jésus est en train de dire que Dieu, c'est ce que les prophètes ont pourtant annoncé pendant des siècles, que Dieu s'est choisi un peuple. La réunion d'Israël et des croyants des autres nations pour en faire un seul peuple, son peuple. Par la foi, ceux qui auront cru dans leur futur Messie, par la foi ceux qui auront cru en Jésus-Christ selon leur époque. Alors, il n'est pas question d'ethnie, d'époque, de langue ou de culture. Il est question d'attachement et d'appartenance à Dieu. Il est également question d'attachement et d'appartenance à un peuple, l'Église. L'Église de l'Ancien et du Nouveau Testament, si on peut l'appeler de cette manière-là. Le peuple que Dieu s'est choisi. En réalité, c'est comme si, quand nous sommes convaincus par le Saint-Esprit dans notre cœur, que Jésus-Christ a lavé nos péchés et que nous en avons besoin, c'est comme si à ce moment-là, nous étions secs et séparés. C'est comme si à ce moment-là, le Seigneur nous ramène pour nous plonger dans notre environnement naturel. C'est comme si il nous ramène à la maison, il nous ramène dans son corps, il nous ramène dans sa présence. Alors c'est vrai, quand ces choses arrivent, quand nous sommes convaincus par le Saint-Esprit, nous sommes toujours ici sur terre, notre corps n'a pas changé, il va continuer de vieillir, on va continuer de choper des rhumes, des allergies, des je ne sais pas tout quoi, ce que je ne nous souhaite pas. Mais nous ne sommes plus du monde. Nous continuons d'évoluer dans le monde, mais nous n'en faisons plus partie. Il y a quelque chose de radical qui a changé. Alors aujourd'hui, nos trois baptisés ou futurs baptisés de quelques minutes vont réaliser plusieurs puissances fondamentales, plusieurs réalités spirituelles fondamentales en passant par les eaux du baptême. Lorsqu'ils seront plongés dans les eaux du baptême, en fait, ce sera une proclamation. Vous allez proclamer que vous avez été crucifié avec Jésus, que vous êtes mort avec Jésus, que vous avez été enseveli avec Jésus. Lorsque vous allez ressortir de l'eau, ce sera une proclamation que vous êtes ressuscité avec Jésus et qu'un jour, comme il est monté au ciel, vous allez monter vers Dieu à votre tour. Mais encore, en passant par les eaux du baptême, c'est une proclamation et c'est une entrée officielle dans le corps de Christ, dans l'Église, dans la famille. Vous ne serez plus des gens du dehors, mais des gens du dedans. Et Paul en parle, il fait comme une synthèse dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, je vous lis les versets 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Voilà une partie de ce que signifie le baptême. Mais ce n'est pas tout. Dans ce texte de Matthieu 28, Jésus donne la manière dont il faut baptiser. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Remarquez, il n'y a pas marqué dans les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est au nom, au singulier. Parce que Dieu est un en trois personnes, mais il est complètement un. Jésus est en train de dire, baptisez-les dans toute la réalité de Dieu. Plongez-les dans le Père. Plongez-les dans le Fils. Plongez-les dans le Saint-Esprit. Et ils seront saturés, imbibés, saturés, à déborder, remplis de la plénitude de Dieu. Alors qu'est-ce que c'est être plongé dans le Père? La liste est trop longue. Je ne peux pas tout vous dire. Mais lorsque tu es plongé dans le Père, tu réalises, tu acceptes avec joie et avec le repos du cœur que tu es son enfant adopté par amour et par grâce. Quand tu es plongé dans le Père, tu réalises que sa volonté pour toi, pour chacun d'entre nous, sa volonté est bonne et parfaite en toutes circonstances. Quand tu es plongé dans le Père, tu réalises, puisque tu es adopté, que tu fais partie d'une famille et que tu n'es plus jamais seul. Tu as déjà une famille naturelle, mais tu as une grande famille spirituelle que tu peux retrouver aujourd'hui sur toute la surface de la terre. Quand tu es plongé dans le Père, tu réalises combien il t'a aimé au point de sacrifier son propre fils pour que son propre fils prenne sur lui toutes tes tares, toutes tes faillites, tous tes problèmes, tous tes défauts, tous tes fardeaux, toutes tes douleurs, toutes les injustices que tu as vécues. Plongé dans le Père, tu comprends sa tendresse et sa douceur, mais tu comprends aussi sa sainteté. Et ça te permet de t'approcher de lui, pas n'importe comment, avec confiance, mais comme une sainte révérence, pas avec légèreté. Quand tu es plongé dans le Fils, tu as l'assurance de ton salut. Tu sais que maintenant tu es imbibé, rempli du Seigneur. Tu sais qu'il a lavé tes péchés, comme cette éponge pourrait laver un tableau noir. Tu sais que le Seigneur t'a lavé, que tu n'as pas pu le faire par toi-même. Tu sais que ce n'est pas par mérite que tu es sauvé, que ce n'est pas par tes propres forces que tu vas de gloire en gloire, de victoire en victoire, que ton caractère s'améliore de plus en plus. Mais tu sais que c'est parce que Jésus s'est sacrifié, a donné sa vie pour toi. Tu sais qu'il t'a tellement aimé que lui qui est parfait, il a décidé de se réduire pour prendre notre condition humaine pour venir régler tes problèmes. Quand tu es plongé dans le Fils, tu sais ou tu dois apprendre à comprendre que ce qui attire Jésus en toi, ce n'est pas tes réussites, ce n'est pas ta progression spirituelle. Ce qui attire Jésus en toi, c'est tes problèmes, c'est tes péchés, c'est les sujets de honte, c'est quand tu es tellement, tellement mal, quand tu te sens méprisable parce que tu as fait ce que tu n'aurais pas dû, tu ne voulais pas le faire, tu fais le mal que tu ne veux pas, tu ne fais pas le bien que tu voudrais. C'est ces choses-là qui attirent Jésus en toi, non pas parce qu'il les aime, mais c'est à cause de ces choses-là qu'il est venu sur terre pour venir régler ces problèmes-là, pour te transformer. Ce qui attire Jésus en toi, c'est ce qui va pouvoir transformer, ce dont il va te débarrasser, c'est soulager tes fardeaux. Ce n'est pas tes mérites. Jésus t'aime tellement. Quand tu es plongé dans le Fils, tu commences à comprendre ces choses-là et tu commences à être débarrassé de toute culpabilité. Mais quand tu vis des choses difficiles, c'est de plus en plus facile de te repentir, de demander simplement pardon et surtout de recevoir ce pardon et de partir libéré sans culpabilité. Être plongé dans le Saint-Esprit, c'est le gage de la présence de Jésus avec nous jusqu'à la fin du monde. Le Saint-Esprit, il vient en nous parce que, en Jésus-Christ, nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Lorsque tu es plongé dans le Saint-Esprit, tu as tout l'équipement dont tu as besoin. Tu reçois la puissance de Dieu pour évoluer dans ta vie. Quand tu te mets à prier, tout à coup, tu sens que tu es efficace dans tes prières parce que tu ne pries plus par tes propres forces, mais tu pries par la puissance du Saint-Esprit parce que c'est lui qui peut changer les circonstances, c'est pas toi. On a vu dans les paroles tout à l'heure qu'il est question à un moment donné de déplacer les montagnes. Mais toi, tu peux pas. toi, tu reçois cette grâce d'avoir la foi qui vient du Saint-Esprit. Mais qui c'est qui va faire en sorte que cette montagne se déplace? C'est le Saint-Esprit. Quand tu es plongé dans le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit régénère ton esprit et il rend actuel ce que Jésus a fait pour que, enfin, tu passes de la mort à la vie. Être enfant de Dieu, c'est être plongé dans le Père, plongé dans leur Fils, plongé dans le Saint-Esprit. On ne peut pas se passer de l'un ou de l'autre. Même lors du baptême de Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient présents. Jésus se fait baptiser, c'est le Fils. Il y a comme une colombe qui vient du ciel, c'est le Saint-Esprit. Et il y a une voix d'en haut, c'est la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils ». Père, Fils et Saint-Esprit, soyez plongés dans toute la plénitude de Dieu. Alors nous comprenons dans ce texte qu'il est bon pour chacun d'entre nous d'être plongé dans le Père, plongé dans le Fils, plongé dans le Saint-Esprit. Et on comprend aussi que tout à l'heure, quand on va baptiser nos trois jeunes, on va dire ces mots, que nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais bien sûr, il y a une notion de formule, mais c'est beaucoup plus qu'une formule, c'est une vraie réalité. L'Église va faire ce que le Seigneur a commandé. Il est bon pour chacun d'entre nous d'être plongé, jour et nuit, d'être plongé jusqu'à saturation de toute la réalité de Dieu. Mais en réalité, ce que Jésus dit, c'est il ordonne, allez, faites des nations des disciples, plongez-les. Quand on rejoint le corps de Christ, on a aussi des responsabilités, le fait à notre tour de plonger les gens dans le Seigneur. Et comment est-ce qu'on fait? Eh bien, Jésus donne la suite. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai prescrit. Comment est-ce qu'on fait? Tout ce que Jésus a prescrit, c'est là. D'ailleurs, cette parole, c'est aussi quand on est plongé dans le Saint-Esprit que cette parole prend vie et qu'on commence à avoir vraiment du plaisir à la lire et qu'elle nous transforme. Et que quand on commence à s'y plonger tout à coup, la parole de Dieu, elle se fait chair en nous. Un petit clin d'œil à nos futurs baptisés. Cette parole, quand c'est de la lecture, c'est dur. Et comme on en a parlé, surtout les généalogies. Mais quand on entre dans cette parole avec le soutien du Saint-Esprit, notre cœur s'illumine. Alors bien sûr, les prescriptions de Jésus, ce que nous devons enseigner, c'est là-dedans. Mais si je reprends cet exemple de l'éponge. L'éponge, quand elle est dans son environnement naturel de la mer, son plus grand rôle, c'est de filtrer l'eau. Eh bien, vous, en tant qu'enfant de Dieu, et nous, l'Église, en tant qu'Église et enfant de Dieu, nous avons comme un rôle de filtrer le bien et le mal, rejeter le mal, faire fructifier le bien. C'est un cheminement de tous les jours. Mais le fait de vivre de cette manière-là est déjà un enseignement. Notre comportement, notre vie, être instrument de paix, être instrument de pardon, celui qu'on demande, celui qu'on accorde, celui qu'on reçoit. Être instrument de bénédiction, d'accueil, de patience, la liste est longue. En clair, être des témoins vivants, des modèles vivants dans notre manière de vivre et dans les paroles qui sortent de notre vie. Enseigner nos proches, nos semblables, à devenir disciples de Jésus pour que dans notre manière d'être, notre façon d'être image de Dieu, ils voient, même inconsciemment, notre attachement et appartenance à Dieu, notre attachement à sa parole et la mise en application, notre attachement et appartenance à l'Église, au corps de Christ, notre attachement et obéissance à l'éthique du royaume de Dieu. C'est des choses qu'on sait, Et c'est pas facile. C'est un cheminement. C'est quelque chose que l'on vit jour après jour, avec l'aide du Père, du Fils, du Saint-Esprit, au travers de sa parole, au travers des frères et sœurs, au travers des enseignements, au travers des prières, au travers de tout ce que le Seigneur nous a donné et qu'on peut vivre à l'intérieur du corps de Christ, individuellement et en communauté. Alors je m'adresse à vous, les futurs baptisés. Vous avez déjà reçu ce témoignage du Saint-Esprit. Vous avez déjà été touchés par le Saint-Esprit. Sinon, ce matin, vous ne seriez pas en tenue de plongée, si je peux dire ça comme ça. Sinon, ce matin, ce ne serait pas l'aboutissement d'un temps de petite formation. Vous n'auriez pas fait cette demande de vous faire baptiser. Mais rappelez-vous, le baptême ne sauve pas. Le baptême n'est pas une protection par rapport au péché, il n'est pas un moyen de délivrance, même si Dieu peut accorder une délivrance à ce moment-là, mais ce n'est pas ça le baptême. Le baptême n'est pas un aboutissement, c'est plutôt un commencement. Il est l'entrée officielle dans le corps de Christ, il est responsabilité, il est témoignage, il est confession de foi, il est engagement. En plus de tout ce que nous avons parlé de l'identification à la mort et à la résurrection de Jésus. Le baptême, il a été institué par Jésus lui-même. Et ce que vous allez faire tout à l'heure, c'est le signe visible d'une réalité qui est déjà présente dans vos vies. Votre salut en Jésus-Christ que vous avez déjà acquis par la grâce, votre nouvelle vie d'enfant de Dieu. Alors pour terminer, je vous lis ce passage de Éphésiens 2, les versets 19 à 22. Ainsi donc, Élise, Esteban, Roman, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes citoyens de l'Église. Avec l'Église, vous êtes citoyens de tout ce peuple de Dieu, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça veut dire que vous avez été construits, vous avez été bâtis, formés sur le fondement des apôtres et des prophètes, c'est-à-dire toute cette parole. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est par Jésus que tout se tient. En lui, tout l'édifice que vous êtes et que nous sommes ensemble, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Alors nous allons passer au baptême maintenant et quand vous ressortirez de l'eau, nous allons prier pour vous. Vous viendrez devant et nous allons vous imposer les mains pour que vous receviez la plénitude du Saint-Esprit. Alors certains parlent du baptême du Saint-Esprit, on peut mettre plusieurs termes différents. Ce qu'on va demander, comme les apôtres l'ont fait, on le lit dans le livre des Actes, chaque fois qu'ils baptisaient quelqu'un, si le Saint-Esprit n'était pas déjà venu, ils imposaient les mains aux baptisés pour que le Saint-Esprit descende et que tous les jours de votre vie, vous ayez cet équipement du Saint-Esprit en vous, que vous soyez toujours une habitation de Dieu en esprit. C'est ce que nous ferons tout à l'heure lorsque vous sortirez de l'eau.